Chers frères et sœurs, la liturgie de ce jour en la fête de Saint Joseph nous montre Joseph le charpentier, descendant du roi David, et à travers lui, elle nous montre toute l'espérance d'Israël pour le monde entier. Elle nous montre que la paternité de Joseph, paternité qui est hors du commun, lui permet d'être le protecteur de Jésus et de Marie, le protecteur de nos familles, le protecteur de notre Église. Joseph, le charpentier, descendant de David, oui, ce que nous savons de Joseph se résume à bien peu de choses en fait. L'évangéliste Matthieu nous le présente ainsi. Joseph, l'époux de Marie, était un homme juste. Il était charpentier, selon les évangélistes. Nous savons qu'il était fiancé à Marie, grâce à Matthieu. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, la mère de Jésus. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Descendant de David, Joseph était originaire de Bethléem. Le roi David, élu de Dieu, appelé, consacré par l'onction, était le pasteur du peuple hébreu, héritier des promesses qui avaient été faites au patriarche. David, en dépit de ses nombreux péchés, sut se repentir avec sincérité pour répondre fidèlement aux attentes de Dieu. Il sut se soumettre dans la confiance à la volonté de Dieu pour lui-même, pour son peuple. Beaucoup en Israël ont vu en lui la figure du Messie. Et la réussite du roi David aurait pu laisser croire que les promesses de Dieu s'accompliraient par lui. Or, voici qu'une prophétie nouvelle vint renouveler l'attente messianique d'Israël, l'espérance d'Israël pour le monde entier. Oui, alors que le roi David voulait construire un temple pour Dieu, c'est Dieu qui lui promet un descendant qui naîtra de toi, qui habitera une maison pour mon nom. La maison dont il est ici question n'est pas uniquement une maison de pierre, mais c'est un lignage, c'est une descendance. Pour cette descendance, Dieu sera un père plein d'amour. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Oui, l'espérance d'Israël s'en trouve dilatée aux dimensions du monde, tournée vers l'avenir, consolidée avec assurance, l'assurance de la fidélité de Dieu et la certitude de l'accomplissement des promesses. L'alliance du Sinaï s'accomplira désormais par la descendance de David. Joseph, par son humble obéissance à la volonté de Dieu, sera celui qui permettra la réalisation de la promesse faite à David. Il ne sera pas le père biologique de l'enfant conçu par l'Esprit-Saint dans le sein de la Vierge Marie. Il sera le père adoptif, mais il sera pleinement un père, conduisant Jésus à l'âge d'homme, protégeant Marie. Grâce à Joseph s'accomplira le serment de Dieu. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il en est ainsi pour nous. Nous pensons que nous pouvons faire beaucoup de choses, y compris pour Dieu. Et c'est en Dieu, c'est Dieu qui construit pour nous, si nous sommes à l'écoute de sa parole et de ses commandements. C'est lui qui, pour nous, accomplit beaucoup de choses. Joseph est un homme libre. Savons-nous ce que signifie ce mot ? Nous pensons naturellement aux libertés, au pluriel, dont nous jouissons dans notre pays, en France. C'est vrai, nous avons la chance de vivre dans un pays où les libertés publiques sont garanties. Alors, rendons grâce à Dieu pour cela. Mais la liberté, c'est beaucoup mieux que les libertés. Et c'est sans doute plus difficile à vivre. Les libertés de voter pour les différentes élections qui sont multiples dans notre pays, de se réunir, de fonder une association, etc., etc. Toutes les libertés publiques nous sont données par des lois, par la Constitution. Joseph est un homme libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est un homme juste devant Dieu parce qu'il vit sous la grâce de Dieu. C'est pourquoi il renonce à la décision qu'il avait prise dans le secret de son cœur de répudier Marie. Joseph est un homme libre parce qu'il ne rend pas des comptes à des instituts de sondage, à des électeurs potentiels, à des gens susceptibles de lui procurer des faveurs. Joseph est un homme libre par la grâce de Dieu. Nous sommes libres, chers frères et sœurs, nous aussi, si nous le voulons, si nous le demandons, nous sommes libres par notre baptême. Nous avons été baptisés dans la mort et la résurrection du Seigneur. Nous sommes les hommes et les femmes de la vie éternelle. Nous sommes les hommes et les femmes de l'espérance. Alors, fermons la porte à la peur, à la rancune, à la haine. Ouvrons la porte à l'Esprit Saint. Et alors, nous serons des hommes libres. Les fruits de la liberté donnés par l'Esprit sont nombreux. C'est la paix intérieure, c'est la foi, c'est l'amour, c'est l'espérance. Eh bien, chers amis, lorsque nous goûtons à ces fruits, nous sommes sauvés. Et c'est ce dont a goûté Joseph. C'est ce qui lui a permis, justement, de vivre une paternité hors du commun, sans se préoccuper du regard des uns et des autres. L'apôtre Paul nous permet de pénétrer plus avant dans le mystère de la paternité de Joseph. Abraham fut père à 99 ans. Isaac est un don de Dieu, conçu hors de toute logique humaine, par deux vieillards qui avaient renoncé à tout espoir d'une descendance directe. Mais la paternité d'Abraham s'étend bien au-delà des liens du sang. Elle concerne non seulement la descendance selon la chair, mais elle atteint au-delà tous les hommes qui entrent dans l'alliance par la loi et par la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire « on devient héritier par la foi ». Et c'est notre cas, nous sommes des héritiers. C'est plutôt une bonne chose quand on est un héritier, quand on hérite de quelque chose. Eh bien nous avons hérité d'un trésor, c'est le trésor de la foi. Et ce trésor, il ne faut pas le garder pour nous. C'est une grâce pour tous les descendants d'Abraham, y compris pour nous. Non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Ainsi en va-t-il pour Joseph, qui, dans la foi et en raison de son union avec Marie, acceptera de devenir le père adoptif de Jésus, le Sauveur, le Messie attendu par Israël. Fiancé à Marie et apprenant sa maternité prochaine, il a d'abord décidé de s'en séparer sans éclat afin de ne pas l'humilier publiquement. Mais, averti en songe de l'origine de la maternité de Marie, il décide de se comporter en homme juste. C'est le récit que nous fait l'évangéliste Matthieu. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ce que ordonne Gabriel, l'envoyé de Dieu. Quand Joseph se réveilla, poursuit l'évangéliste, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. C'est lui, Joseph, qui, sur l'ordre de l'ange, donna son nom à Jésus. En agissant ainsi, il lui donne une existence légale. Il l'insère dans l'histoire humaine. Il prend la responsabilité de le mener jusqu'à l'âge d'homme. Ainsi, l'incarnation du Verbe de Dieu en Jésus va jusqu'à respecter les lois de la croissance humaine. selon ce qui est prescrit par la loi de Moïse, Jésus sera circoncis et présenté au temple. Après le don du nom, la circoncision et le rachat du premier-né étaient les devoirs de tout père. C'est ces devoirs que Joseph a accomplis. On a pu dire de Joseph qu'il était le grand silencieux. On a dit aussi qu'il était l'homme des songes. Et c'est vrai. C'est vrai que nous ne possédons aucune transcription de ses paroles et que c'est souvent à la suite d'un songe qu'il va agir. Il est l'homme de l'action juste, averti des décisions à prendre. Il sait agir au moment voulu pour préserver, protéger le trésor qui lui a été confié et se conformer à la volonté de Dieu. Joseph se fait ainsi le protecteur de Jésus et le protecteur de Marie. Joseph prend Marie pour épouse. Il accepte de veiller sur la mère de l'enfant. C'est lui qui organise le voyage à Bethléem en Judée, ville de la descendance de David, pour le recensement. C'est lui qui sera présent pour la naissance de Jésus et pour la visite des bergers et des mages. C'est encore lui, averti une fois de plus en songe, qui mettra à l'abri de la fureur d'Hérode l'enfant Jésus et sa mère et qui les ramènera ensuite en terre d'Israël. C'est sans doute auprès de lui que Jésus apprendra son métier. Toute sa vie, Joseph travaillera pour faire vivre dignement la famille que Dieu lui a confiée. La figure de Joseph artisan a été souvent représentée dans l'imagerie populaire. Elle est porteuse de vérité, car le travail est une forme d'expression de l'amour au sein d'une famille. Sous la banalité du quotidien à Nazareth, Joseph, tout comme Marie, devinait l'importance du destin de l'enfant qui leur avait été confié. Comme Marie, sans doute, Joseph a-t-il gardé tous les événements de la vie de Jésus dans son cœur pour les méditer. L'évangéliste Luc notera que Joseph, comme Marie, était dans l'étonnement de ce que disait de lui, et en particulier de ce que diront Siméon et la prophétesse Anne. Joseph a dû prendre conscience petit à petit du caractère unique de l'enfant qui lui était confié, mais sa responsabilité de père est celle de tous les pères sur cette terre. Dans l'aventure de la paternité, il y a toujours une dimension adoptive. Le lien qui lie la mère et l'enfant est évident, parce que la mère le porte, elle le met au monde, elle le nourrit. Le père, lui, doit entrer dans cette relation. Il doit trouver sa place pour aider la mère matériellement, l'aider aussi à prendre la distance nécessaire vis-à-vis du nouveau-né. Et pour faire grandir l'enfant, le rôle du père est irremplaçable. Joseph est l'illustration de ce qu'est la belle mission d'un père de famille. L'homme est fait père par la naissance de l'enfant. Il est aussi fait père par la confiance que son épouse met en lui. Jamais Marie n'a pu douter de la fidélité et du dévouement de Joseph. Dieu a voulu donner à son Fils unique, dans le mystère de l'incarnation, une famille humaine, composée d'un père, composée d'une mère. Cette famille est pour nous un modèle. Elle s'est épanouie en dépit des épreuves, dans la foi, dans la confiance donnée et jamais reprise, dans la mission acceptée de l'éducation de l'enfant reçu comme un don de Dieu. Pour pouvoir remplir leur mission, Joseph, comme Marie, s'appuyait sur la prière et sur la méditation de la parole. Ils écoutaient l'Esprit Saint à l'œuvre dans leur cœur de parents. Aujourd'hui, l'Église est à nos côtés pour soutenir la marche des parents sur cette terre. Alors gardons-nous, chers frères et sœurs, de jouer aux apprentis sorciers en changeant les règles de la filiation. Gardons-nous de jouer aux apprentis sorciers, en privant les enfants de parents, d'un père et d'une mère, d'un père et d'une mère biologique ou d'un père et d'une mère adoptif, mais d'un père et d'une mère. Joseph, protecteur de Marie, protecteur de l'enfant Jésus, Joseph est aussi le protecteur de nos familles. Il l'est de manière toute particulière. La famille reçoit la mission de garder, la mission de révéler et de communiquer l'amour, reflet vivant et participation réelle de l'amour de Dieu pour l'humanité et de l'amour du Christ Seigneur pour l'Église, son épouse. C'est ce que disait le pape dans l'exhortation apostolique Familiaris Consortio, le pape Jean-Paul II. Nous savons tous combien cette tâche est difficile dans ce monde marqué par le matérialisme, par l'individualisme. En exerçant la pleine autorité de ses devoirs de père sur la Sainte Famille, Joseph nous montre l'exemple du don total de soi au service de l'amour familial, le rôle irremplaçable du père. La Sainte Famille est le modèle de toutes les familles chrétiennes qui doivent tendre à l'imiter pour leur plus grand bonheur et pour la croissance harmonieuse de notre société. En prenant Marie et Jésus sous sa protection, Joseph a témoigné de la force de la foi, de l'amour, de la confiance. Il a pleinement joué son rôle de père sur cette terre, même si l'Évangile reste silencieux sur les relations entre Jésus et Joseph. Lors de l'épisode de la disparition de Jésus à Jérusalem, Marie pourra dire « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Combien sont nombreux aujourd'hui les parents qui peuvent dire « Nous avons souffert. » Cette souffrance, déposons-la aux pieds de Saint Joseph. Joseph nous apporte force, sérénité. Il n'a jamais douté, jamais regretté, jamais reculé. Il est pleinement entré dans le plan de Dieu sur sa propre vie, sur celle de Marie, sur la vie de Jésus, tout entier, livré humblement à l'accomplissement de sa tâche. Il est un modèle pour chacun de nous. Homme de foi, homme de prière, homme de méditation, il fut pour Thérèse d'Avila elle-même un maître. Que celui qui n'a pas de maître dans l'horizon prenne ce glorieux saint pour guide, il ne risquera pas de s'égarer. Voici ce qu'écrit sainte Thérèse d'Avila. Le devoir accompli, il s'est ensuite effacé pour que ne subsiste que la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Joseph, c'est l'exemple de l'humilité, de la douceur et de la discrétion. Joseph, le réfugié en Égypte, nous rapproche de nos frères chrétiens qui ont quitté leur pays hier. Le Vietnam, la Chine, le Cambodge, à cause de la persécution. Aujourd'hui, la Corée du Nord, l'Irak, la Syrie, l'Égypte et tant de pays que j'oublie. Nos frères chrétiens quittent un pays qu'ils aiment, leur pays, dans lequel ils vivent depuis des générations, bien avant l'arrivée de l'islam pour certains pays. Protéger sa famille, comme le fit Joseph, est une invitation pour nous à accueillir, à protéger nos frères chrétiens persécutés. C'est aussi un appel auquel les deux évêques d'Égypte et du Mexique et un prêtre d'Algérie présent à la nuit des témoins hier soir à Notre-Dame nous ont adressé. Aidez vos frères chrétiens à rester au Moyen-Orient. La terre du Moyen-Orient est une terre sur laquelle nos frères chrétiens ont le droit de vivre. 80% des chrétiens vivent en Égypte, le reste en Israël, au Liban, en Syrie, en Irak, etc., etc., en Turquie, mais de moins en moins. Ils ont droit à vivre chez eux et nous avons le droit de les aider. Et si par malheur ils sont réfugiés dans notre pays, pensons à Joseph et à Marie en Égypte et apportons-leur notre secours. Joseph est en cela le protecteur de l'Église. Il a pris un soin affectueux de Marie. Il s'est consacré avec joie à l'éducation de Jésus. C'est ce que nous disait le pape Jean-Paul II. De même, il est le gardien et le protecteur du corps mystique du Christ qu'est l'Église, dont la Vierge Sainte est la figure et le modèle. C'est le pape Pie IX qui déclara en 1870 Saint Joseph patron de l'Église catholique. Joseph a su protéger la maison de Nazareth pour assurer une vie digne, une vie sereine à Jésus et à Marie. Il protège l'Église et soutient la mission d'annonce de l'Évangile au monde. Après Marie, Joseph est le modèle proposé aux croyants pour devenir toujours davantage docile à l'action de l'Esprit Saint. Voici la prière pour l'Église que proposait un pape, le pape Léon XIII. Préserve-nous, ô Père très aimant, de toute souillure d'erreur et de corruption. Sois-nous propices et assiste-nous du haut du ciel dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres. Et de même que tu as arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défends aujourd'hui la Sainte Église de Dieu des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Protecteur parfait de Jésus et de Marie à Bethléem, comme à Nazareth, Joseph est aujourd'hui le protecteur de l'Église, par laquelle se perpétue la présence de Jésus sur la terre. Nous pouvons le prier, nous pouvons lui confier l'avenir de notre Église, les vocations de prêtres, de religieux, de religieuses partout dans le monde, l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile à tous les hommes qui en sont privés, ici, tout près de nous, comme sur les terres lointaines que nous aimons. Tout père de famille, à la suite de Joseph, est protecteur de l'Église. C'est une très belle mission. Il apprend à ses enfants l'amour de l'Église, la mission de l'Église à laquelle il les invite à participer, chacun selon son charisme. Il doit se réjouir, ce père de famille, que l'un ou l'autre de ses enfants ait le désir de consacrer sa vie au Seigneur, dans le sacerdoce, dans la vie religieuse, dans la vie missionnaire. Chers amis, nous le voyons bien, Joseph assume sa mission de protecteur de Jésus, homme des songes, beaucoup plus que de la parole, homme discret. Sa personnalité nous interroge, nous qui sommes habitués, tout spécialement par les générations nouvelles, à faire du bruit, à parler, à être à l'écoute des médias. Les hommes publics existent par les médias. L'homme contemporain a besoin de se montrer pour exister. Cette culture, cette promotion de l'individu développe l'ego des personnes et ne fait pas grandir le sens du don de soi. Ce qui caractérise Joseph et Marie, c'est l'obéissance à Dieu, le don de leur personne pour que s'accomplisse la volonté divine. Autre trait de Joseph et de Marie, ils sont à l'écoute. Ils bénéficient des conseils divins par les songes. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils sont bien dans le monde, mais leurs initiatives, leurs actions sont le fruit d'une relation privilégiée avec le Seigneur. Le silence porte des fruits merveilleux parce que ce silence n'est pas synonyme de vide. Ce silence de Joseph et de Marie, il est dialogue intérieur avec le Seigneur. Ce silence, il est fait d'écoute et de réponse dans la prière. Quelle est la place, chers amis, du silence dans nos vies, du dialogue intérieur avec le Seigneur? C'est notre trésor, c'est notre secret à chacun de nous. Alors cultivons notre jardin secret et spirituel. Il est le lieu de la confiance absolue. Il est la source d'énergie, la source d'intuition qui permet les initiatives, qui permet la bonne réponse au moment opportun, aux défis qui nous sont adressés dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. La vie édifiante de Joseph et de Marie est riche d'enseignements pour nous. Elle l'est tout spécialement pour les familles qui, d'une certaine manière, sont comme celle de Joseph et de Marie, hors du commun. L'amour de Joseph pour Marie passe au-dessus de tout. Il respecte Marie, il obéit à Dieu. Et comme le palmier qui protège de son ombre la jeune pousse de la chaleur accablante, il veille sur l'enfant Jésus. Sa paternité est une paternité d'amour. Alors, sachons puiser dans l'exemple de Saint Joseph, dans l'exemple de la Sainte Famille, les idées, la sagesse, qui nous rappelle que la vie n'a de sens que lorsqu'elle est pleinement donnée aux autres. Donnée à l'époux, donnée à l'épouse, donnée aux enfants. Inscrivons le temps dans la vie familiale. Combien de déchirements, combien de ruptures, combien de séparations pourraient être évitées si la sagesse que nous procure l'abandon à la volonté de Dieu l'emportait sur nos désirs personnels. Apprenons à nous maîtriser. Apprenons à fermer les yeux sur les tentations de ce monde matérialiste dans lequel nous vivons. Nous sommes, pour le monde, des individus, des consommateurs, des contribuables, une source de profit. Pour Dieu, nous ne sommes pas ça. Pour Dieu, nous sommes des personnes et non pas des individus. Des personnes en communion avec les personnes de la Trinité. Pour Dieu, nous sommes des enfants, ses enfants, et nous avons une mission à accomplir dans ce monde. Nous ne sommes pas là pour applaudir, pour voter, pour être satisfaits, pour changer 5 ans après. Non, nous avons une mission qui est personnelle. Dieu ne nous demande pas de déléguer notre baptême, il nous demande d'en vivre. Nous avons une mission à accomplir aujourd'hui, autrement plus belle que le rôle que nous réserve la société, comme si nous étions des acteurs de théâtre. Osons vivre en hommes libres, cette liberté que nous donne notre baptême. Nous sommes de passage sur cette terre. Au soir de notre vie, c'est l'amour que nous aurons donné qui comptera seul. L'amour suppose la fidélité. Sachons faire taire notre orgueil personnel afin, en famille, de nous pardonner les uns aux autres. L'époux pardonne à son épouse, l'épouse pardonne à son époux, les enfants pardonnent aux parents et réciproquement. Oui, nous pouvons éviter beaucoup de ruptures, beaucoup de haines qui détruisent nos familles. Rappelons-nous que la famille est le lieu privilégié de l'amour et de la gratuité aussi, de la solidarité aussi. C'est la famille qui, dès les premières années de l'enfant, donne ses chances à celui-ci. Pour toute sa vie, la famille est un trésor qu'il faut placer au-dessus de tout. La famille est une petite église. Aimons-la comme nous aimons l'Église, comme nous aimons notre Seigneur, et servons-la, car en servant la famille, nous servons aussi notre pays et notre Église.